Nathalie Arthaud, j'avais une question. Quand on entend la fermeté de Christophe Castaner, quand on voit que Bruno Le Maire dit « je ne crois pas au geste », est-ce que vous croyez à la pérennité de ce mouvement des Gilets jaunes?
D'abord, moi j'ai envie de me demander quelle dérive. Franchement, on voit des points de blocage, on voit effectivement des salariés, des chômeurs, des auto-entrepreneurs très en colère. Et moi, cette colère-là, effectivement, je la partage. Je pense qu'elle est légitime, on les voit déterminés. Simplement, le gouvernement choisit effectivement d'évacuer certains points de blocage. Bah, il se reforme ailleurs, voilà. Donc c'est de la détermination et moi je pense que cette colère, bien sûr qu'elle va durer. Parce que vous savez, c'est la crise. C'est la crise qui s'abat sur toute la société, sur l'ensemble du monde du travail. C'est les licenciements, c'est les salaires qui sont bloqués, c'est le recul des services publics, c'est effectivement ces petites entreprises aussi qui en prennent finalement plein la figure de cette crise. Donc la réalité, c'est que cette colère, elle est multiforme et elle va continuer de s'exprimer. Bien sûr, aujourd'hui d'ailleurs, vous avez vu, il y a un mouvement des infirmières, oui. Il y a un mouvement à Pôle emploi. Moi, je milite. Est-ce que j'espère...
Et alors donc, on rassemble tout à la fois dans ces mouvements.
Ce que j'espère...
Au risque de les rendre illisibles. Ça a commencé sur les carburants. Là, vous voyez les infirmières peut-être. Et puis, à Pôle emploi, on prend tout, on met tout ensemble.
Moi, je pense qu'il y a clairement quelque chose qui unifie tous mes contentements, c'est le problème du pouvoir d'achat. C'est le fait qu'aujourd'hui, justement, les salaires, ils sont trop bas. Ils sont bloqués depuis des années et des années à un niveau beaucoup trop bas, insuffisant, exactement comme les pensions de retraite. Aujourd'hui, un grand nombre de salariés, tout en bossant, n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Et pourtant, voilà. Nathalie Arthaud, je vous répondrai que les prix à la pompe baissent, qu'il y a eu un effort, je parle sous votre contrôle, sur les cotisations salariales. Non, mais factuellement, pour beaucoup de salariés, le revenu augmente, la taxe d'habitation, beaucoup de Français aussi ne la payent plus cette année. Non,
mais c'est pas vrai, ça n'augmente que pour la frange la plus riche de la société, c'est-à-dire ceux qui en ont précisément pas besoin.
Pas le geste sur les salaires, en l'occurrence, ça concerne tous les salariés français.
Attendez, 7 euros, 10 euros, quand vous êtes à 1200 euros par mois, ça rime à rien. C'est pas ça qui peut vous permettre d'avoir la tête hors de l'eau. La réalité, c'est que cette situation, ce recul de la condition ouvrière, il dure effectivement depuis des années et des années, et que là, eh bien, on atteint un point de rupture. Voilà. Et moi, quand j'entends effectivement des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie, expliquer qu'ils doivent s'en sortir avec 800, 900 euros par mois, comment peuvent-ils faire? Des salariés à temps partiel, ou alors qui vont de petits boulots en petits boulot qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui doivent aller au restaurant du cœur. C'est ce qu'on a entendu depuis des jours et des jours. Et c'est ça la réalité d'une grande
partie. Oui, mais là, vous nous décrivez une France qui souffre, bien sûr, mais c'est une France de classe moyenne qu'on voit aussi dans la rue et les gilets jaunes. Pas forcément ceux qui sont à quelques euros à la fin du mois et qui expriment là leur colère. C'est pas forcément celle-là, la France qui est dans la rue.
On les a entendus, vous les avez entendus comme moi, si vous avez écouté tous ces reportages. Et c'est une frange de travailleurs, effectivement, de salariés. Vous dites classe moyenne, moi je dis les travailleurs, parce que je pense que précisément, là où les travailleurs ont un levier pour faire entendre leurs revendications, c'est justement le fait qu'ils travaillent dans les entreprises et qu'ils peuvent décider de faire grève, d'agir collectivement et donc de peser, pas seulement contre Macron, contre aussi les capitalistes, contre ce grand patronat, parce que c'est ça la question aussi. C'est que, vous savez, il y a, d'accord, les taxes, oui, mais encore une fois, il y a le fait que les salaires sont bloqués. Et ça relève de la responsabilité du grand patronat. Pardon ?
Vous redoutez une radicalisation du mouvement ? On peut reprendre le terme employé par Christophe Castaner.
Mais quelle radicalisation encore ?
Il y a eu quand même 528 blessés depuis samedi.
C'est qu'il y a de la détermination.
Et un mort, malheureusement.
Vous voyez, moi, je redoute absolument pas le fait que les gens s'auto-organisent, prennent les choses en main eux-mêmes, par en bas, par la base. Je le redoute absolument pas. Moi, ce que j'espère, c'est que cela va donner... cela va servir d'exemple à bien des travailleurs qui se retrouvent tous les jours sur les entreprises, dans les usines, pour que justement ils discutent ensemble et pour qu'ils reprennent confiance dans le fait que, oui, il suffit d'être un certain nombre à vouloir agir collectivement, on peut avancer, on peut construire un rapport de force. Donc moi, j'espère que ce rapport de force, il va se traduire aussi, effectivement, dans les entreprises et sur une revendication qui unifie. Parce que l'indexation des salaires et des retraites sur les prix, je pense que c'est une revendication qui unifie, effectivement, l'ensemble des mécontents.
François-Xavier Pietri.
Il faut rappeler quand même que le point de départ, c'était les taxes carburants. Aujourd'hui, ce que demandent essentiellement les Gilets jaunes, d'ailleurs, c'est la fin, le stop sur les taxes carburants. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à la transition énergétique? Est-ce qu'on est dans cette période-là?
Enfin, moi, je crois que c'est très clair pour tout le monde. Cette histoire de transition énergétique, c'était la Libye. C'était la Libye du gouvernement pour nous faire les poches. Écoutez, c'est quand même dingue parce que dans toutes ces villes moyennes hein, du pays, on ferme des guichets de poste, on ferme des petites gares, on ferme des écoles, on ferme des centres des impôts. Aujourd'hui, là, et le gouvernement va dire il faut se désintoxiquer de la voiture. Mais quelle blague! Il force les salariés à finalement faire de plus en plus de kilomètres pour tout, pour se soigner, pour s'éduquer. Donc il n'y a pas le choix. Et le gouvernement le savait très bien. Les gens allaient payer plus. Donc effectivement, ça, c'est une escroquerie. Donc, on le voit. D'ailleurs, beaucoup de gilets jaunes disent, eux aussi, sont préoccupés par l'environnement. Mais c'est sûrement pas comme ça qu'on pourra changer les choses.
Nathalie Arthaud, vous restez avec nous. On reste, bien sûr, sur LCI et dans LCI Midi en particulier, au plus près de ce mouvement des gilets jaunes. Il y a une autre actualité importante, c'est celle qui concerne Carlos Ghosn. Les suites de cette affaire, parlons-en avec vous de cette descente aux enfers. François-Xavier Pietri, jusqu'à ce week-end, il était l'un des patrons les plus puissants du monde. Il est toujours en garde à vue, ça peut quand même durer 3 semaines au Japon. Et voilà que Bruno Le Maire a demandé une gouvernance intérimaire chez Renault. C'est une affaire qui peut mettre en danger l'alliance Nissan-Renault.
Alors, il est lâché aujourd'hui par le gouvernement français, mais en même temps, ça ne peut guère être autrement, puisque Carlos Ghosn est déchu de ses fonctions, si je puis dire, chez Nissan et chez Mitsubishi. Ce qui est clair, c'est que chez Nissan, et même dans la haute administration japonaise, on est depuis très longtemps agacé par l'alliance Renault-Nissan, parce qu'elle met à peu près sur le même pied les deux groupes, alors que Nissan pèse à peu près 2 fois plus lourd que Renault, pas 2 fois plus lourd, mais 92 milliards de chiffre d'affaires pour Nissan et 60 milliards pour Renault. Vous voyez, c'est Carlos Ghosn qui a permis, d'une certaine façon, cet équilibre. C'est lui qui est garant un peu de cette alliance. Et ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Quel va être le jeu des pouvoirs demain? Qui va prendre la main? Est-ce que ce sont les Japonais? Et c'est un sujet qui remonte au plus haut niveau de l'État, puisque, je le rappelle, le gouvernement, l'État français, a 15% du capital.
En France, le salaire de Carlos Ghosn, plus largement d'ailleurs, le salaire des patrons, c'est assez sensible.
Alors oui, c'est un sujet très sensible.
On va en parler.
Oui, oui. Celui de Carlos Ghosn a toujours été très sensible, au point d'ailleurs qu'il y a eu un bras de fer ces dernières années, hein, souvenez-vous, entre le gouvernement et Carlos Ghosn.
Régulièrement, oui.
D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui est parvenu à faire baisser le salaire de Carlos Ghosn. 30%, quand même 13 millions. Mais ça n'est pas le plus payé. Alors ce qui est juste à rappeler, c'est qu'en France, le salaire moyen des patrons du CAC 40, il est de plus de 5 millions d'euros en 2017, des salaires qui donnent le vertige. Ils ont grimpé de 14% en un an. C'est à peu près 7 fois plus que les salaires de l'ensemble des entreprises. Et Carlos Ghosn, avec 13 millions, est loin d'être le premier, c'est le troisième.
Nathalie Arthaud, est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que ça raconte quelque chose de plus global, l'affaire Carlos Ghosn?
Alors, il est lâché par absolument tout le monde aujourd'hui.
Très vite.
Effectivement, d'accord. Mais il y a 2 ou 3 jours, tout le monde l'encensait. Hein, voilà, il était adulé. Pourquoi? Parce que c'était un capitaine d'industrie, disait-on. Parce que c'était un cost killer, c'est-à-dire un très bon licencieur. Quelqu'un qui avait réussi à supprimer des dizaines de milliers d'emplois dans tout le groupe Renault-Nissan. Et là, tout le monde l'applaudissait. Quand il s'agissait effectivement de comprimer les salaires, d'aller piquer des minutes de pause pour les ouvriers, les ouvriers, quand il s'agissait de transformer Renault en royaume de la précarité, parce que c'est ça Renault aujourd'hui. Renault en France, c'est 9 000 intérimaires. C'est des prestataires qui sont jetés du jour au lendemain. Quand il faisait toute cette politique-là, pro-patronale, voilà, dans la ligne du capitalisme, eh bien, il était applaudi par tout le monde. Eh bien, moi, c'est précisément cela qui me révolte. C'est cela qui me choque. C'est, vous voyez, cette exploitation légalisée où on vole effectivement les travailleurs, où on les presse comme des citrons et on en est...
Et en même temps, ça préserve de l'emploi. C'est 500 000 emplois.
Ça n'est pas au nom de rien. Renault-Nissan est quand même devenu le premier groupe automobile pour rien. Ça. Donc,
grâce
quand même...
à qui? Moi, je suis impressionnée depuis effectivement hier. Oui, Carlos Ghosn il a vendu combien? 5 millions de voitures avec ses petites mains. C'est lui qui les a fabriquées avec ses petites mains. Il y a des centaines de milliers d'ouvriers, de travailleurs qui ont sué pour ça. Et comment sont-ils rémunérés? Eh bien, pas suffisamment, y compris, regardez le nombre de... Il suffit de faire 6 mois, 7 mois sur les chaînes de montage. Il y a d'ailleurs que des intérimaires hein, sur les chaînes de montage de Renault aujourd'hui. Et on a le dos en compote. Donc voilà la situation. Eh bien, moi, c'est ça qui me choque, voyez-vous. Et voilà, j'ai envie de dire, mais ça, effectivement, c'est l'exploitation normale, institutionnalisée, c'est tout à fait légal, donc on ne dit rien. Eh bien, moi, je pense que ça fait aussi partie du mécontentement qu'il faut exprimer aujourd'hui. Ça suffit, cette exploitation, pour une minorité, pour des salaires délirants, hein, franchement. 15 millions par an, voilà, c'est délirant. Et je ne parle pas des actionnaires qui s'en mettent encore plus dans les poches.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir accepté l'invitation d'LCI Midi, d'avoir réagi à ces deux principaux sujets que sont les Gilets jaunes et le cas Carlos Ghosn, même si ils n'ont évidemment rien à voir directement l'un avec l'autre. Vous restez avec nous. Merci Nathalie Arthaud. Nous passons à la météo. Il fait froid. Il y a même de la neige par endroits.